Le journal de la rédaction présenté par Ilan Malcarm.
Bonsoir à tous. Au moins 35 morts dans une catastrophe au nord de l'Italie. C'est un viaduc qui s'est effondré sur l'autoroute A10 à Gênes. Plusieurs voitures et camions ont été précipités dans le vide d'une hauteur de 45 mètres. Les causes précises de l'écroulement restent à déterminer, mais notre correspondant sur place, Antonino Gallofaro, nous dira ce qui est connu pour le moment des circonstances de ce drame. Fin de l'errance pour l'Aquarius. Une solution a été trouvée dans la journée pour ce navire qui transporte à son bord 141 migrants sauvés vendredi au large des Olibiennes. Ils vont pouvoir accoster à Malte et seront ensuite répartis entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne. Annabelle Grelier nous expliquera le cheminement qui a mené à cette sortie de crise. Et puis cette information plutôt inattendue, malgré la canicule de cet été en France, les nappes phréatiques sont sur des valeurs positives. C'est ce qu'annonce le Bureau de recherche géologique et minière. Aujourd'hui, nous entendrons les explications de Clotilde Ravel dans cette édition. À Gênes, c'est donc un viaduc qui s'est effondré en fin de matinée vers 11h30 alors qu'un violent orage s'abattait sur la région. Le pont Morandi sur l'autoroute A10 s'est écroulé. Le bilan est pour le moment d'au moins 35 morts et il pourrait s'aggraver dans les prochaines heures. Les précisions de notre correspondant sur place, Antonino Gallofaro.
Les victimes ont fait une chute de plusieurs dizaines de mètres quand le viaduc a cédé au milieu des décombres. Le décor compte alors trouver les secours en arrivant sur place peu après-midi est un véritable enfer, pour reprendre leurs mots. Des voitures détruites, écrasées sous des blocs de béton, des camions retournés quand ils ne sont pas dans le torrent qui passe sous le viaduc. Selon l'agence de presse Hansa, 30 voitures et 3 poids lourds auraient été emportés dans l'effondrement. Des plaques de béton se sont par ailleurs écroulées aussi sur des immeubles qui ont été évacués. 2 personnes ont été blessées lorsque leur bâtiment a reçu le choc. Dans un autre, un incendie s'est déclaré asphyxiant une femme de 75 ans. Au total, on dénombre 13 blessés, dont 5 graves. On ne sait pas encore exactement ce qui a provoqué l'écroulement de ce pont central pour Gênes, au cœur d'un nœud routier qui permet de relier aussi la France. La presse italienne évoque une défaillance structurelle de l'un des piliers. Dans le même temps, elle reprend les paroles de ses témoins qui auraient vu un coup de foudre frapper le pont peu après 11h30 ce matin, donc plusieurs minutes avant le drame. Le pont a été construit en 1967. Il est long de plus d'un kilomètre pour une hauteur de près d'une centaine de mètres. Selon un ingénieur de Gênes, il y a 2 ans, le professeur Antonio Brancic, ce viaduc était trop rigide et il était devenu trop coûteux à entretenir. Il parlait même d'une erreur d'ingénierie.
La France est aux côtés de l'Italie et se tient prête à apporter tout le soutien nécessaire. C'est ce qu'a assuré sur Twitter le chef de l'État Emmanuel Macron. Le maire de Nice, Christian Estrosi, de son côté, annonce l'envoi de soutien technique en Italie, des véhicules de chantier et d'entretien, des tractopelles ainsi que des personnels de la métropole de Nice ont été envoyés pour être opérationnels dès cette nuit ou demain matin au plus tard. À Londres, la piste terroriste se confirme au fil des heures après les événements de ce matin. C'est une voiture qui a percuté des cyclistes et des piétons avant de s'immobiliser contre une barrière de sécurité sur une rampe d'accès au Parlement à 7h37. Le conducteur du véhicule a été arrêté. Compte tenu de ce qui semble être un acte délibéré, de la méthode et de l'importance symbolique de ce lieu, nous considérons cela comme un événement terroriste. Ce sont les mots du chef de la police antiterroriste. Aude Soufi, vous êtes notre correspondante sur place. Bonsoir.
Bonsoir.
Quels sont les derniers éléments de cette enquête ?
Eh bien, les enquêteurs continuent d'interroger ce suspect qui ne se montre pas très coopératif. Ils essayent de comprendre pourquoi cet homme d'un peu moins de 30 ans a brusquement changé de trajectoire, pour vous le disiez, foncer sur des cyclistes et des piétons et puis s'engager sur une rampe d'accès au Parlement et finalement percuter une barrière de sécurité. Écoutez Neil Bassou, le chef de l'antiterrorisme britannique.
À ce stade de l'enquête, aucun autre suspect sur la scène n'a été identifié par la police. Il n'y a pas de renseignement à l'heure actuelle d'un danger pour les Londoniens ou le reste du Royaume-Uni en lien avec cet incident. Notre priorité est désormais d'établir formellement l'identité du suspect et d'établir ses motivations si nous pouvons.
La voiture, une Ford Fiesta grise, a été passée au peigne fin par la police scientifique qui n'a trouvé aucune arme à bord. Quelques personnes ont été légèrement blessées, mais l'incident aurait pu être beaucoup plus grave. Il a eu lieu à 7h37 du matin, en plein mois d'août. Écoutez Ram, qui travaille juste à côté.
Vous voyez là, tous les matins, à partir de 7h, il y a beaucoup de monde. C'est les trottoirs, il y a beaucoup de monde ici aussi. Et 7h du matin, il n'y a pas beaucoup de touristes. Mais il n'y avait que les gens qui travaillent dans le secteur gouvernement, comme nous. Il n'y a que des bureaux de gouvernement ici.
Le dispositif policier semble avoir fonctionné ce matin. La réponse a été extrêmement rapide, mais la première ministre a tout de même convoqué une réunion d'urgence avec les responsables des services de renseignement et de sécurité du pays pour faire le point sur les mesures en place dans la capitale britannique.
Aude Soufi, donc en direct de Londres. La situation se débloque pour l'Aquarius. Depuis cet après-midi, le bateau se dirige vers Malte où il a désormais l'autorisation d'accoster. Une fois que les migrants qu'il transporte ont touché terre, ils pourront alors être répartis entre plusieurs pays européens qui se disent désormais disponibles pour cela. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir.
Nous savons donc désormais que 5 pays de l'Union européenne, dont la France, se portent volontaires.
Oui, alors les 141 migrants qui se trouvent à bord de l'Aquarius seront en effet répartis entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne. Des migrants qui vont donc tout d'abord débarquer à Malte. Malte qui va servir de base logistique. Alors qu'est-ce qui a pu faire changer d'avis le gouvernement maltais alors qu'il n'avait aucune obligation légale à ouvrir ses ports aux bateaux affrétés par l'ONG, précise-t-il dans un communiqué. Eh bien, visiblement, l'assurance d'un partage de responsabilités au sein de l'Union européenne concernant la gestion de ces migrants. L'initiative a-t-elle été prise par la France, par Emmanuel Macron lui-même? C'est du moins ce que l'on peut comprendre dans le tweet du président français cet après-midi. Je remercie Malte pour son geste humanitaire et l'assure de la totale solidarité de la France. Malte, de son côté, parle d'accord franco-maltais. Il faut dire que l'affaire de l'Aquarius est plus qu'embarrassante d'un point de vue purement humanitaire, mais elle commençait à faire franchement désordre sur le plan politique. La Catalogne, la Corse, la ville de Sète avaient proposé leur aide aux bateaux pour qu'ils accostent dans leur port, une offre qui dépassait quelque peu le cadre de leurs prérogatives, une forme d'ingérence qui rappelait encore une fois à l'opinion publique l'inertie de leur gouvernement. Après 4 jours d'une nouvelle crise des migrants secourus par l'Aquarius, qu'aucun pays ne voulait accueillir, leur sort ce soir semble en partie réglé. À Bruxelles, cette solution trouvée dans l'urgence ne règle pas pour autant la question migratoire à long terme. Nous ne pouvons pas nous en remettre seulement à des arrangements au cas par cas. Il nous faut des solutions durables, a déclaré le commissaire européen chargé des migrations.
Merci à vous Annabelle Grelier. Les deux ONG qui supervisent les opérations de l'Aquarius, Médecins sans frontières et SOS Méditerranée, se disent très soulagés ce soir après cette annonce de Malte. D'autant plus qu'il y avait véritablement urgence à accoster. Bonsoir Guillaume Fariol.
Bonsoir.
Pendant une conférence de presse cet après-midi, les deux ONG ont insisté sur l'état de vulnérabilité de ces migrants.
Oui, d'abord parce qu'ils sont très affaiblis physiquement. Rappelons que l'Aquarius est en mer depuis vendredi dernier. Les conditions sont difficiles à bord. À cela, il faut ajouter le périple de ces migrants depuis leur pays d'origine. Asiba Al-Sarraoui est conseillère aux affaires humanitaires de MSF.
Les personnes sont très amaigries. Certaines ont passé près de 3 ans en captivité en Libye et on sait quelles sont les conditions en Libye. Déshydratées aussi. Ils mangent des pâtes et du riz en gros, donc un régime très très pauvre. Quelques cas, oui, avec la gale qui est vraiment très très présente, des infections de peau qui nécessitent une surveillance médicale.
Ces migrants sont vulnérables aussi parce qu'ils sont très jeunes. Sur les 141 personnes à bord de l'Aquarius, 67 sont mineurs, seuls, sans parents ni tuteurs. Il s'agit majoritairement d'Érythréens qui ont fui le service militaire indéfini et obligatoire de leur pays.
Vous pouvez être conscrit pendant 20 ans, 30 ans avec un salaire de misère. Donc les parents, dès qu'ils arrivent à l'âge critique autour de l'âge du service militaire, essaient de faire partir leurs enfants parce qu'ils ont trop peur pour eux.
Alors la question qui se pose désormais, c'est de savoir dans quelles conditions ces migrants vont être accueillis à Malte. Pour l'instant, c'est la grosse inconnue, Asiba Al-Sarraoui.
On est vraiment dans l'improvisation. Le système en Italie, on le connaissait bien. Le système était rodé, on connaissait nos interlocuteurs. Là, à Malte, ça sera la première fois. Nous aurons un dialogue avec les autorités, essayer d'organiser au mieux le débarquement et la prise en charge des personnes.
Cette prise en charge, ça passe bien sûr par l'examen des demandes d'asile. L'ONG Médecins Sans Frontières assure qu'elle sera extrêmement attentive à ce que tous les dossiers des demandeurs soient bien examinés dans les règles par les pays d'accueil de ces migrants.
Des précisions donc signées Guillaume Fariol. La Commission européenne hausse le ton contre la Pologne. Elle estime que Varsovie n'a pas répondu à ses inquiétudes sur le respect de l'indépendance de la justice dans la réforme de la Cour suprême polonaise. La Commission avait envoyé début juillet une lettre de mise en demeure et les autorités polonaises ont désormais 1 mois pour prendre des mesures. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Israël pourrait rouvrir demain totalement le seul terminal de transit des marchandises vers la bande de Gaza, mais il y a malgré tout une condition à cela. Il faut que le calme observé ces derniers jours persiste. C'est ce qu'indique le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman. Le point de passage en question est le seul qui existe pour les marchandises entre Israël et la bande de Gaza. Depuis le 9 juillet, il est bloqué, mais les aliments et les médicaments ont cependant continué à entrer dans Gaza. Nouvel épisode des tensions entre les États-Unis et la Turquie. Aujourd'hui, le président turc Recep Tayyip Erdogan annonce que son pays va désormais boycotter les appareils électroniques américains. Il invite notamment ses concitoyens à délaisser l'iPhone pour favoriser Vestel, marque turque. Il s'agit d'une réponse aux sanctions économiques américaines. Au départ, il y a, on le rappelle, une crise diplomatique. Washington demande la libération d'un pasteur accusé par Ankara d'espionnage et d'activités terroristes. Les combats font toujours rage en Afghanistan, entre d'un côté l'armée du pays, qui est appuyée par les États-Unis, et de l'autre côté les insurgés talibans. Les rebelles ont conquis ce matin une base militaire, Chennaïa, située dans le nord du pays. Et la lutte se situe également au niveau de la ville de Ghazni, qui est située dans le centre de l'Afghanistan. La situation militaire, mais aussi politique, semble tourner aujourd'hui en faveur des talibans. C'est en tout cas l'avis de Karim Pakzad. Il est chercheur à l'Institut de Recherches Internationales et Stratégiques.
On se trouve dans une situation extrêmement compliquée en Afghanistan depuis 2 semaines, aussi bien sur le plan politique que militaire. D'abord sur le plan politique, les talibans ont pour la première fois eu un succès considérable, à savoir l'amorce des discussions directes, officielles avec les États-Unis qui ont eu lieu la semaine dernière à Qatar. Ce succès politique est accompagné par une offensive tout azimut sur le terrain. Il n'y a pas que cette base dans le nord de l'Afghanistan. Depuis 5 jours, il y a des combats à 2 heures de Kaboul. La province de Ghazni, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville historique extrêmement importante des pays musulmans ou des pays islamiques l'ont considéré comme la capitale culturelle et des arts de l'islam. Donc cette province est depuis 5 jours le théâtre de combat. Le gouvernement a admis que plus d'une centaine de soldats ont été tués. Ce matin même, une organisation non gouvernementale a acheminé 200 cercueils dans cette ville parce qu'il y a des morts partout dans les rues où il n'y a personne pour les ramasser. Donc moi je pense que les talibans préparent les négociations sur l'avenir de l'Afghanistan dans une position de force. D'ores et déjà, les talibans contrôlent presque moitié du pays. Mais là, aujourd'hui, avec ces offensives dans le nord et surtout dans la ville de Ghazni, montrent qu'ils sont plus forts que jamais.
Propos recueillis par Valérie Crova. Au Mali, au second tour de la présidentielle, il y a eu des irrégularités, mais il n'y a pas eu de fraude. C'est en tout cas ce qu'affirment les observateurs de l'Union européenne envoyés sur place. Ils contredisent donc les déclarations du leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Ce dernier a appelé ses partisans à ne pas reconnaître les résultats de l'élection quand ils seront proclamés, c'est-à-dire probablement demain. Il a dénoncé des fraudes pour les observateurs européens. Le vote s'est globalement déroulé dans le calme, en dépit d'incidents relatifs à la sécurité dans le centre et le nord du Mali. Cette relative bonne nouvelle en France, on ne s'y attendait pas forcément, mais les nappes phréatiques vont plutôt bien. C'est le Bureau de recherche géologique et minière qui l'annonce aujourd'hui. Pourtant, les températures caniculaires de ces dernières semaines ont assoiffé la terre et les rivières. Pendant les grosses chaleurs, 44 départements ont activé des mesures de restriction d'eau, interdiction de laver sa voiture ou d'arroser à certaines heures les jardins, les espaces verts et les golfs notamment. Bonsoir Clotilde Ravel.
Bonsoir.
Comment expliquer que malgré cette sécheresse du début du mois d'août, le niveau des nappes phréatiques n'est pas baissé ?
Eh bien, tout simplement parce que la France s'est retrouvée dans une situation de sécheresse de surface et pas une sécheresse de profondeur. Il faut bien différencier l'état des sols, de l'état des sous-sols et donc des nappes phréatiques. En fait, le niveau de ces nappes dépend surtout de l'humidité et des pluies de l'hiver et du printemps. Des pluies qui cette année se sont prolongées jusqu'au mois de juin et ont permis aux sous-sols de faire des réserves. Alors on pourrait penser que cette bonne nouvelle est aussi due aux orages et même aux inondations qui ont touché la France la semaine dernière. En fait, non, les nappes phréatiques ne se remplissent pas en quelques jours ni en quelques semaines. Dans des sols calcaires par exemple, les eaux de pluie peuvent mettre un an voire même deux ou trois, avant de rejoindre le sommet de la nappe. C'est donc un processus de long terme. Pas de crise dans un futur proche, mais pas de quoi se réjouir non plus. À l'horizon 2045, le Bureau de recherche géologique et minière prévoit une augmentation des sécheresses. Le réchauffement climatique pourrait causer une baisse de 10 à 25% de l'alimentation des nappes phréatiques.
Merci à vous Clotilde Ravel. Le ciel de demain sera relativement nuageux dans le nord du pays. Ce sera même gris en matinée, de la Bretagne jusqu'aux Ardennes. Un petit peu plus dégagé dès la fin de matinée. Partout ailleurs, ce devrait être ensoleillé du matin au soir. En début de journée, les températures partiront de 16 degrés en Finistère et elles monteront jusqu'à 28 degrés dans le Var. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue. Elle a été réalisée à la technique par Anthony Thomasson. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout à l'heure à 22h et vous retrouverez Ézéchiel Fernandez.